Le DAF est clair. Le DAF, c'est clair avec Torah Box et Ravishai Asayag. Pété Baba Kama, page 112, DAF Kouf Yud Bet.
Bonjour à tous, le DAF est clair. Baba Kama, Kouf Yud Bet. Alors, Vadla Barava nous enseigne que ce que Rami Bachama nous avait dit que c'était défini, qu'un héritage était défini comme Shinur Eshut, il le déduit d'autre part. Si le père avait prêté de l'argent avec intérêt et que cet argent est là, ils ne sont pas obligés de le rendre. J'en déduis que c'est défini comme Shinur Eshut. Alors, je ne dis pas forcément. Peut-être que c'est pas Shinur Eshut, mais tout simplement. Quand Hachem a dit qu'il fallait rembourser, c'est celui qui a pris cet argent de Revit à eux. Hachem n'a rien dit, c'est pour ça qu'ils ne sont pas obligés. Celui qui vient avec la déduction de la Mishnah, et bien ceux de la Braïta, de Revit, évidemment qu'il peut en déduire aussi de la Mishnah. Celui qui vient de la Mishnah, peut-être que dans la Braïta de Revit, il irait comme l'explication de Rava, à savoir à qui incombe cette obligation, seulement celui qui a prêté Revit. Amargma nous ramène Braïta, celui qui a volé et qui a donné à ses enfants à consommer son pâture de payer, s'il a laissé devant eux qu'il soit Gdolim, son rêve de payer puisque le vol est là. Ktanim, ils sont pas tôt parce qu'ils ne peuvent pas être jugés dans cette procédure d'après la vie de Somkrous. Si les Gdolim se défendent et disent « Mais qui a dit que notre père nous a pas payé, t'as pas payé ?» Ils sont Ktourim. Jagman, c'est pas un argument, c'est un argument schéma. C'est pas du tout suffisant pour se défendre. Jagman, non, Bémet, c'est un argument bari. Ils disent avec certitude que leur père les a payés. C'est pour ça qu'ils ne payent pas. Autre Baïtam, celui qui vole et qui donne à ses enfants, ils sont pas tôt de payer. Comme on l'a expliqué dans la Mishnah, après Yehush, ils sont pas tôt de payer. S'il a laissé devant eux et que eux les ont consommés d'après le Tanak, d'après cette Braïta, ils sont Chayavim, Gadol ou Katan, de Malagma, comment est-ce qu'il peut être Chayav? A rien un enfant, quand il est Mazik, il n'est pas tour, donc évidemment qu'il n'est pas tour. Ici aussi, on a dit non, en vérité, ils n'erklifnem et ne l'ont pas consommé. Et que ce soit les adultes ou les enfants, ils sont Chayav, puisque d'après Rabbanan, on peut engager la procédure même contre des enfants. Rava nous dit que si le père avait emprunté un animal, les enfants peuvent continuer à l'utiliser. Si elle meurt, ils ne sont pas chayav puisqu'ils ne se sont engagés en rien. S'ils pensaient que c'était l'animal de leur père et qu'ils l'ont égorgé, ils ne sont pas tours de payer en tant que mazik, en tant que gazal, mais ils sont chayav de payer en tant que néné, c'est-à-dire deux tiers de la viande. Si le père avait légué des biens qui peuvent être garantis, ils sont chayav de payer. Certains disent que cette dernière halakha parle de l'arécha dans le cas où l'animal est mort. Et donc on voit que le père était responsable du moment où il a réquisitionné l'animal. Il était responsable et ses biens étaient hypothéqués, contrairement à la vie de Rafapa qu'on va voir dans un instant. Celui qui dit que ça revient sur la CFA, dans le cas où ils l'ont égorgé. Dans ce cas-là, ils l'ont égorgé en pensant que ça appartenait à leur père. Ils sont donc les représentants du père. Les biens du père peuvent rembourser. Mais dans le cas de la Récha, peut-être qu'il serait d'accord avec Rafapa. Qu'est-ce que nous a dit Rafapa? Il nous dit que l'animal qui est emprunté, la responsabilité de celui qui l'a emprunté l'est engagée au moment de l'emprunt. Au moment où le dégât est fait, le papa pense que c'est seulement au dégât où ça a été fait. Au moment où le dégât a été fait, c'est pour cela que celui qui avait volé un animal et qui l'égorge pendant Shabbat, il sera chayav de tout payer. Puisqu'il a volé avant Shabbat, il était déjà chayav, et que l'obligation de remboursement du knas, elle ne vient que pendant Shabbat. Bon, le knas, on est chayav, même s'il y a en même temps chayav mita. Par contre, s'il avait emprunté, à ce moment-là, il n'avait pas d'obligation de le rembourser, et qu'il a égorgé, et c'est là que le moment de rembourser existe, puisqu'il arrive en même temps que le chayav de mita, il n'est pas tour. Il est marqué dans la Torah Béchivit Akzela, cher Gazal, pourquoi est-ce qu'on précise le vol qu'il a volé? Évidemment, ce qu'il a volé. Qu'est-ce qu'on en déduit? Que si jamais il a donné à ses enfants à nourrir, ils sont ptourine de payer. S'il a laissé devant eux, adultes ou enfants, ils sont rêves de payer, puisque la chose est là. Ils sont précis, les enfants, les adultes, oui. Mais les enfants ne sont pas tôt parce qu'on ne peut pas engager une procédure contre eux. Le beau-frère de Rabbi Birmiyam, quand son père est décédé, il a fermé la porte à Rabbi Birmiyam et a voulu garder la maison. Il est parti pour l'attaquer chez Rabbi Avin. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est dans son droit. Il a dit, mais j'ai des témoins qui disent que son père me l'avait donné de son vivant. Il a dit, mais comment est-ce que tu veux que je fasse? L'enfant est témoin. L'enfant est enfant. Je ne peux pas te juger quand le baldi n'est pas là. Dans la Gemara, pourtant, il y a marqué que Ben Gdolim, Ben Ktanim, Chayavim. On voit qu'on peut même juger les Ktanim. Il a dit, ouais, mais c'est du Marlokaz. Avec Somkrous, il a dit quoi? Tout le monde se met avec Somkrous contre moi. Au final, cette histoire est arrivée chez Rabbi Avahu. Il leur a dit, mais Rabbi Oshaya nous avait enseigné qu'un enfant qui a utilisé ses esclaves pour s'approprier un bien, on le fait sortir du squat. Et seulement après, quand il grandira, on jugera. C'est donc de faire la même chose ici. Moi, j'ai pas du tout. Là-bas, on parle d'un cas où il crée une situation nouvelle. Il ne vient pas basé sur la chazaka de son père. C'est pour ça qu'on le fait sortir. Mais ici, il vient dans la suite de son père. C'est pour ça qu'il est dans son droit. L'Agma nous ramène que Rabbi Abshabtai avait dit que on ne peut pas recevoir des témoins. On peut recevoir des témoins sans présence du baldin. Demande l'Agma comment c'est possible. L'Agma nous dit on parle d'un cas où la personne était malade, où les témoins étaient malades, ou alors les témoins devaient partir et la personne qui était qu'on devait témoigner contre elle ne voulait pas venir au baldin. Le Rav Shmuel, Rav Yudan nous dit au nom de Shmuel que on peut, oui, recevoir un témoignage quand il n'est pas présent. Et avait dit Marukva qu'il avait entendu de la part de Shmuel que c'était quand on avait commencé à juger et qu'on lui a dit viens pour vous écouter le témoignage et qu'il n'est pas venu. Mais si on n'a pas commencé à juger, il peut dire moi je viens pas à Bichlal, donc vous pouvez faire ce que vous voulez, ça m'intéresse pas, parce que moi je vais au Bedin Agadol. Ah, pourquoi est-ce qu'il peut pas faire ça après qu'il a commencé à juger? Parce qu'à ce moment-là, il y avait une lettre du Bedin Agadol qui dit qu'il faut continuer à être jugé à cet endroit. L'Agmara nous dit que on peut valider un shtar sans présence du Baal Din. Rabbi Yochanan pense qu'il faut qu'il soit présent. Pourquoi? De la même manière qu'il est marqué au sujet du Shoah Mouad, il faut que le prêtre soit là. De la même manière, quand on vient être Mekayem Ashtar, il faut que le propriétaire soit là. Je dis Rava, l'alakha n'est pas comme ça, on peut être Mekayem Ashtar, pas devant le Bedin, même s'il hurle et dit que c'est faux, on est Mekayem. S'il dit laissez-moi du temps, on lui laisse du temps. S'il ne vient pas, on lui laisse encore Bahab, lundi, jeudi, lundi. S'il ne vient pas, on écrit un idouille pendant 90 jours sans prendre aucun de ses biens. Pourquoi? Parce que les 30 premiers jours, on suppose qu'il est en train de charger de l'argent. Les 32e jours, on suppose qu'il essaye de vendre un bien. Et les 30 derniers jours, on suppose que l'acheteur est à la recherche de l'argent. C'est pour ça qu'on attend 90 jours. Si jamais il n'est pas venu après 90 jours, là, on écrira adrachta, c'est-à-dire le droit de prendre l'un de ses biens. On peut écrire, c'est tout ce qu'on attend tout ce temps-là, c'est quand au départ, il dit « moi, je veux venir, laissez-moi le temps ». Et si depuis le départ, il dit « je ne veux pas venir », on le pénalise immédiatement. Ça aussi, c'est seulement quand c'est une histoire d'emprunt. Donc on peut supposer qu'il y a des problèmes pour réunir les fonds, mais dans une histoire de picanon, il ne devrait pas avoir de problème, donc c'est dans l'immédiat qu'on écrit. Quand on écrit cet adrachta, on écrit que sur des mécarkéines, mais pas sur des métaltélines, de peur que celui qui récupère, en final, il s'avère être dans son tort, et il n'aura pas de quoi rembourser. Mais si jamais il a ce malvé qui veut récupérer, il a des carcottes, on va s'appuyer sur la possibilité de récupérer de ses carcottes à lui. L'agma conclut qu'au final, non, ses carcottes, non, ces carcottes ne sont pas suffisants. On ne lui donnera pas le droit de récupérer des métaltélines parce qu'on a la garantie de ses carcottes, de peur que ses carcottes perdent de leur valeur. Quand on écrit une adrachta, on doit avertir la personne qu'on écrit, ça a été écrit. S'il est à côté, s'il est loin, non. S'il est loin, mais il y a des gens qui sont en contact avec lui, où il y a des échanges, on va attendre jusqu'à qu'ils aillent là-bas, au moins au maximum jusqu'à 12 mois. Comme l'histoire de Ravina qui avait écrit une adrachta et qui avait attendu qu'on avertisse pendant 12 mois. Donc on voit qu'on attend 12 mois. Je dis, non, c'est pas vrai, on n'attend pas 12 mois. Là-bas, c'était différent. Quand on a écrit l'adrachta, on savait que si Bémet, l'autre, récupérait les biens, même s'il s'avérait dans son tort, on ne pourrait jamais rien récupérer. C'est pour ça qu'on a préféré avertir et attendre 12 mois que l'autre soit au courant. Mais de base, on n'attend pas 12 mois. Le lendemain du Dioun, qui était lundi, on va laisser le Shaliach aller. Ça lui donnera le temps de revenir jusqu'à mercredi. Et jeudi, il pourra être jugé. Quand le Bedin envoie une invitation à venir être jugé, la personne qui est envoyée, on le croit comme deux personnes. Quand c'est un idouille qui est béalpé, quand c'est un idouille qui est à l'écrit, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que ce idouille à l'écrit, il faudra payer celui qui a écrit. Donc un edéchad ne peut pas faire perdre de l'argent. Quand on veut donner cette invitation, on peut le donner à des voisins, on peut le donner à une femme, et on va leur faire confiance. Mais attention, on leur fait confiance seulement quand, à ce moment-là, il n'était pas en ville. S'il est en ville, on suppose qu'eux vont se dire, il est en ville, le Bedin peut se débrouiller de manière différente. Ils ne vont pas faire leur shlichut, et nous, on va mettre en idouille cette personne alors qu'il n'était même pas au courant. Même quand il n'est pas en ville, on sait seulement quand, sur le retour, il n'est pas censé passer devant le Bedin, et s'il est censé passer devant le Bedin, on suppose que ces gens-là ne vont pas faire la shlichut parce qu'ils vont se dire que le Bedin s'est débrouillé de manière différente. Et tout ce qu'on a dit, c'est seulement quand on sait qu'il est censé revenir aujourd'hui. Mais quand il n'est pas censé revenir aujourd'hui, on suppose que ces gens-là ont oublié de faire le shlichut. On ne peut donc pas le mettre en idouille sur le fait qu'il n'est pas venu. Rabban nous dit qu'une personne qui était mise en idouille parce qu'il n'est pas venu en jugement, tant qu'il n'est pas venu en jugement, on n'annulera pas l'idouille. Une personne qui a été mise en idouille parce qu'il n'a pas accompli le jugement, on ne l'annulera pas l'idouille tant qu'il n'aura pas payé. Jagma, c'est pas vrai, même s'il n'a pas payé. Et il a simplement dit « je suis prêt à payer ». Dans ce cas-là, on enlève les deux, contrairement à celui qui n'est pas venu au Bedin. Lui, il peut venir, quand il n'est pas venu, il sera mis en édouille. On va résumer rapidement ce qu'on a vu. Rami Bahama, Marlokat entre Rami Bahama, est-ce que Yereshut Yoroshin, c'est Kelokiar, c'est-à-dire est-ce que c'est Shinu Yereshut ou pas? Quand le père avait prêté l'argent en ribite, les enfants n'ont pas l'obligation de le rendre, ou alors parce que c'est Shinu Yereshut, ou alors parce que cette obligation ne leur incombe pas. Marlokat entre Rabanan et son Koutz, est-ce qu'on peut juger des enfants? Est-ce que quand c'est une procédure, est-ce qu'on peut le faire même quand c'est face à des enfants? Des enfants qui viennent et qui disent « on sait très bien que notre père nous a volé, qu'il t'a volé mais qu'il t'a remboursé, cet avis est suffisant pour empêcher le remboursement. » Si le père avait laissé un animal qu'il avait emprunté, les enfants peuvent continuer à l'utiliser, ils ne sont pas khayav si l'animal est mort. Si ils l'ont égorgé en pensant que c'était l'animal de leur père, ils seront khayav de payer le 2/3 du prix de la viande. Si jamais le père a laissé des biens, eh bien il y a deux versions, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans le cas où il a égorgé l'animal, quand ils ont égorgé l'animal, évidemment qu'ils sont au rêve de payer parce qu'ils l'ont égorgé au nom du père, donc les biens du père peuvent le payer. Dans le cas où l'animal est mort, c'est une marloquette dans les paroles de Rav. Est-ce qu'on pense comme Rav Papa ou pas, c'est-à-dire est-ce que le père qui avait emprunté était khayav depuis le moment où il a emprunté ou seulement quand le dégât a été fait? Une personne qui a volé un animal et qui l'égorge pendant Shabbat sera khayav arba v'chamisha. Une personne qui a emprunté un animal et qui l'égorge pendant Shabbat sera pas tour de tout parce que qui lui est bédé mina. Rabbi Irmiya qui était en dispute avec son beau-frère qui voulait le virer de la maison qu'il pensait que son beau-père lui avait donné et on n'a pas pu le faire parce qu'on ne pouvait pas juger l'enfant. Un enfant qui vient et qui s'approprie quelque chose, lui on peut le sortir du squat immédiatement. On ne peut pas demander à des témoins de venir témoigner sans présence du Baal Din, sauf si les témoins sont malades, le Baal Din est malade, celui qui attaque est malade, ou alors dans le cas où on lui a dit viens et qu'il n'est pas venu, ou alors
Dans le cas où on a commencé le jugement, si on n'a pas commencé le jugement, il peut dire, moi, vous ne m'intéressez pas, j'ai Obedin Agadol. Kiou Meshtar, Marloket, est-ce qu'on peut le faire sans présence de la personne? Alakha, on peut le faire sans présence de la personne. S'il demande du temps, on lui donne. Après ce temps, on attend encore lundi, jeudi, lundi. Après, on attend encore 90 jours parce qu'on suppose qu'entre-temps, il y a les fonds qui doivent être récoltés. Tout ce qu'on attend, c'est parce qu'on suppose qu'il y a donc un retard et compréhensible. Mais si c'était un picadon, ou alors si c'est une personne qui ne veut pas venir dans l'immédiat, on peut écrire une adrarta, c'est-à-dire le droit de récupérer. Ce droit de récupérer l'argent, on l'écrit que sur les mécarkines, pas sur les métaltines, de peur que celui qui récupère n'est pas dans son droit et qu'il n'aura pas de quoi rembourser. Même s'il a un bien immobilier, ce n'est pas suffisant. On a vu qu'on peut déléguer pour inviter au bedin des personnes, des voisins ou une femme, seulement quand il y a trois conditions, quand il est censé revenir le même jour, quand il n'est pas censé revenir sur la porte, de passer par le bedin et... quand il n'est pas encore en ville, quand on a mis une personne en idouille parce qu'il ne voulait pas venir au bedin tant qu'il n'est pas venu, l'idouille ne sera pas annulée, quand on a mis une personne en idouille parce qu'il ne voulait pas payer, à partir du moment où il dit « je suis prêt à payer », même s'il n'a pas payé, on pourra lever l'idouille. Ça fait clair, au prochain, et à demain, Bezrat Hashem.